Ben oui, on était vraiment dû pour une chronique marketing et on va parler de sous-marins et de hockey cet après-midi avec notre spécialiste Luc Dupont. Donc, il est professeur à l'Université d'Ottawa. Salut Luc!
Bonjour Louis-Philippe.
On apprenait que la chaîne Subway songe à fermer quelques 500 établissements aux États-Unis alors que les ventes sont en baisse d'un peu plus de 4 % depuis l'an dernier. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'on voudrait, du côté de Subway, ouvrir des restos, là, environ 1000 restos ailleurs dans le monde, à l'international, en Asie, en Grande-Bretagne et en Allemagne notamment. Donc, Luc, malgré son côté santé et son côté jeune, les temps sont durs pour Subway.
Bien, présenté comme ça, oui, effectivement, a priori 500 restos. Puis je te rappelle qu'on avait fermé 800 l'an dernier. Donc, ça fait quoi? Quelque chose comme 1300 restaurants, points de vente potentiels. C'est pas rien. Maintenant, quand tu regardes la big picture, comme on dit communément, tu recules un petit peu. Ils ont à l'échelle mondiale 43 700 restaurants.
Oui, puis il en reste quand même près de 26 000 aux États-Unis, là.
Oui, alors en pourcentage, on parle pour cette année, à tout le moins, les 500 restos, c'est 1,9% de l'ensemble des points de vente. Alors sur ce plan-là, tu vois, soudainement, ça a peut-être moins l'air dramatique, mais effectivement, nions pas que on traverse une période, bon, ponctuellement, et toutes les entreprises sont condamnées à un moment donné à se regarder dans le miroir. La compétition, ben McDonald's aux États-Unis, plus 3,4%, entre autres du côté des déjeuners. Starbucks aussi qui a lancé son application récemment, des entreprises comme Panera Bread qui sont moins connues au Canada, et Chipotle qui justement annonce ce matin des chiffres remarquables. La dernière fois que j'ai vérifié, l'action était en hausse de 18%, ce qui est pas rien. Chipotle a connu toute une séquence là, depuis à peu près 2 ans, de problèmes dans les cuisines. Alors autant d'indices qui donnent à penser que Subway est condamné à bien des égards à se renouveler. Puis se renouveler, ben ça veut dire quoi? Un, ouvrir plus de restaurants à l'échelle mondiale. Tu parlais des 1000 restos. C'est le Mexique, la Chine qui a réservé un accueil extraordinaire au poulet frit Kentucky, qui là-bas est une chaîne remarquablement importante, Louis-Philippe. Ça peut sembler drôle de dire
mais
ça.
Parce qu'ici, c'est en déclin.
Oui, et dans le cas de la Chine, là, c'est un succès remarquable. On parle de l'Inde aussi, la Grande-Bretagne, toujours pour Subway, j'y reviens, l'Allemagne et la Corée du Sud. Et un dans l'autre, bien, c'est autant de marchés potentiels qui sont sous-représentés sur le plan des Subway. Et l'autre item, c'est qu'on annonce qu'on va renouveler les restos. Alors, un peu comme on avait fait du côté de McDonald's, tu te souviens, il y a quelques années, à un moment donné, là, on a revu à l'intérieur, oui. Et tout ça, des nouveaux items qui vont être ajoutés au menu. Et l'autre élément, c'est qu'on va ajouter la commande un peu à la sauce McDo. Parce que, au fond, tous les autres restaurants regardent aller McDonald's en se disant si ça marche, on va s'inspirer d'eux. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, on va passer à autre chose. Alors, dans le cas de Subway, là, les indices qu'on a, c'est que dans tous les cas, des nouveaux items, des nouveaux. Un nouvel habillage, je dirais, resto et les fameuses commandes McDo. Et c'est
bien, c'est ça. Puis la technologie, bon, les jeunes aiment beaucoup ça et les jeunes sont des grands consommateurs de fast-food. Donc, à la base, c'est eux autres qu'on vise. Puis on se dit, si on amène les jeunes, les parents vont suivre. C'est encore ça, la mentalité?
Oui, certainement, parce que les faiseurs de mode, comme on les appelle souvent, ce sont les plus jeunes. Et ça explique pourquoi souvent on va surinvestir du côté des jeunes. Ça se justifie pas toujours sur le plan des moyens financiers, là. Évidemment, puis malheureusement, plus on vieillit, règle générale, plus on a de moyens financiers. En tout cas, c'est ce que nous enseignent quand on jette un coup d'œil sur les codes d'écoute du côté des consommateurs. R.C. Nielsen, entre autres, fait beaucoup de choses là-dessus au Canada. Puis dans le cas de Subway, j'y reviens, c'est que 100% des restos sont des franchisés. Alors, c'est pour ça que quand tu annonces comme ça, tout soudainement, que tu vas renouveler le resto, l'habillage, comme on l'appelle communément, à l'intérieur, ben là, ça a tout de suite un impact.
Oui, il y en a qui débarquent parce que ça prend un investissement supplémentaire, c'est ça que tu veux dire?
Mais très rapidement, on est capable aussi d'identifier les restaurants qui fonctionnent un petit peu plus puis un petit peu moins. Puis, force est de reconnaître que du côté de Subway, souvent, il y en a un à un coin de rue, puis à 3 coins de rue plus loin, il y en a un autre. Hein? Je ne sais pas, oui, si tu as déjà remarqué ça, la compétition n'est pas, mettons qu'elle est très, très intense. Et l'autre truc aussi, c'est le programme de fidélité. Ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu plus âgés, se souviendront probablement qu'à une époque pas si lointaine, on avait les fameux timbres, et ça était disparu soudainement parce qu'on s'était aperçu que dans certains cas, il y avait des gens qui avaient tendance à vendre les roulettes de timbres pour avoir accès à des sous-marins rapidement et facilement. Alors, dans ce cas-ci, on revient avec le programme de fidélité, c'est à la mode aussi, parce qu'on s'aperçoit au fond qu'une fois qu'un consommateur est un habitué, pourquoi pas lui donner une fois de temps en temps un petit cadeau si ça lui permet ou ça lui donne le goût de revenir par la suite.
Un petit nanane, Luc, c'est toujours apprécié.
C'est toujours apprécié, effectivement.
Oui, mais là, on revient, je présume, sous forme d'application. Là, moi, je regarde mes gars, là, l'application de McDo, là, si le Canadien marquait le premier but, tu avais une frite gratuite, il y avait des jeunes au McDo. Je comprends que le Canadien n'a pas marqué beaucoup de buts cette année, là, mais ça fonctionne, ces affaires-là. Là.
Oui, puis en parlant de Canadiens puis en parlant de hockey, ben tiens, glissons dans notre deuxième sujet si tu y vois pas d'inconvénient, parce que je tombais récemment sur les codes d'écoute des matchs de la Ligue nationale de hockey durant les séries, et force est de constater que c'est pas, mettons que c'est pas formidable, d'autant plus que NBC, je te rappelle, qui a les droits techniquement des matchs de la Ligue nationale aux États-Unis, a présenté deux matchs depuis quelques jours à Golf Channel plutôt qu'à NBC. C'est pas gentil pour la Ligue nationale, mais rappelons-nous que la Ligue nationale et M. Bettman en particulier, durant les derniers Jeux olympiques, ont aussi fait un pied de nez à NBC qui possédait les droits des Jeux olympiques en Corée du Sud et qui avait décidé, hein, Bettman avait décidé de ne pas envoyer d'équipe de la Ligue nationale ou de joueurs de la Ligue nationale durant ce tournoi-là. Je me souviens qu'on avait eu cet échange-là, toi et moi, Louis-Philippe,
oui.
En se posant la question, c'est quoi qu'il va avoir? Il va se passer quelque chose? Il va avoir un petit retour d'ascenseur? Alors, le retour d'ascenseur, on l'a vu depuis quelques jours, deux matchs, des séries de la Ligue nationale, c'est quand même pas rien. Non pas présenté du côté d'NBC, le grand réseau national, mais du côté de Golf Channel.
Ben, voyons
c'est une
là.
Chaîne beaucoup plus spécialisée.
Je comprends. Et là, l'autre nouvelle, Ligue nationale de hockey, tous les observateurs s'attendent à ce que Bettman confirme une nouvelle franchise à Seattle d'ici le début de l'été. Évidemment, c'est une déception pour les gens de Québec comme toi, Luc, mais c'est pas une surprise. Pourquoi ça en est pas une, Luc?
C'est pas une surprise parce que le défi de Bettman, évidemment, dans ce contexte-là, c'est de générer le maximum de sous. Et pour générer le maximum de sous, ben, c'est entre autres les ententes avec les réseaux de télévision. Du côté du Canada, ben, tu te souviendras de Rogers Sportsnet pour les intimes, qui a signé un contrat il y a quelques années déjà. Ça va tellement vite, quoi, à peu près 3 ans. 12 ans pour 5,2 milliards de dollars. Puis une partie de ce contrat-là a été refilée aux gens de Québécois. Et puis la première année 2016, un désastre. Aucune équipe canadienne dans les séries. En 2017, il y en avait 5. Puis cette année, ben la beauté, c'est qu'à Toronto, qui fait un bout de chemin.
Mais là, c'est terminé.
Et c'est terminé. Ouais. Et dans le cas de Toronto, toute l'année durant, ça, là, cette équipe-là qui performe, ça a généré des codes d'écoute supérieurs à hauteur de 20% au Canada. Alors souvent, la question qu'on se pose, là, une équipe qui gagne versus une équipe qui perd, c'est-tu vrai que ça vaut quelque chose? Alors Toronto, plus 20%. Les Blackhawks, cette année, qui n'ont pas participé aux séries, moins 29% codes d'écoute durant la saison régulière. Les Rangers, tiens-toi bien, moins 36%. Alors, je reviens à ta question, pourquoi Seattle? Bien, parce que si tu veux générer ou si tu veux titiller davantage les chaînes de télévision américaines, les grands réseaux, bien, tu dois étendre au maximum ta toile sur le plan des équipes de hockey. Et malheureusement, puis je ne le dis pas avec bonheur, tu le devines bien, Louis-Philippe, mais sur ce strict plan-là des affaires, ajouter une équipe à Québec, ça donne rien de plus parce que tu l'as déjà, le contrat de télévision. 5,2 milliards pour 12 ans.
Ouais.
Et pour ceux qui posent la question, du côté des États-Unis, qui est un marché 10 fois plus important en termes de tête de pipe potentielle, mais on aura compris que sur le plan des revenus, ce n'est pas tout à fait exact. Ben, sur 10 ans, avec NBC, c'est 2 milliards. Et tu as 10 fois plus de téléspectateurs potentiels. Mmh. Je dis potentiels parce que ça sera mon dernier petit chiffre, Louis-Philippe. Les matchs de la Ligue nationale durant les séries, les bons matchs, génère aux États-Unis 2 millions de téléspectateurs.
Oui, parce que le basketball dans les pattes aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas au Canada, ou en tout cas beaucoup moins au niveau de l'intérêt de la population en général. L'autre chose qui aide Seattle, j'ai l'impression, c'est que Las Vegas est un grand succès, un plus grand succès que prévu, Luc.
Oui, certainement. Puis dans le cas de Seattle, il y a un historique de hockey, il ne faut pas le nier. Puis il y a évidemment les grands annonceurs. Là. Il y a des équipes, des joueurs extraordinairement importants qui sont sur la côte ouest et qui sont entre autres basés à Seattle. Bon, je pense à Starbucks, un exemple parmi tant d'autres. Et dans une saison où, curieusement, plusieurs équipes là, du Original Six, là, hein, les équipes là, qui avaient lancé la Ligue nationale, je pense à Chicago n'a pas participé aux séries, Détroit n'a pas participé aux séries, les Rangers qui est un marché gigantesque, n'ont pas participé aux séries.
Le Canadien,
également.
Évidemment. Il reste les Bruins.
Oui, il reste les Bruins. Alors, il faut absolument que tu étendes cette toile-là le plus rapidement possible. Alors, Seattle est une réponse facile. Puis l'autre réponse facile, malheureusement, encore là, avant Québec, c'est Houston. Et Houston, historiquement, qui était dans l'AMH, l'Association mondiale de hockey pour les intimes, est une équipe qui, à l'époque, fonctionnait relativement bien, qui s'était presque rendue jusqu'à la fin. Ils avaient abandonné là, lors de la saison 78, mais donc tout juste un an avant la fusion. Mais ça marchait bien. Ils avaient signé Gordie Howe, tu te souviendras peut-être de ça, et les deux autres frères également. Ça avait donné une deuxième vie.
Ben, disons que je ne m'en souviens pas parce que j'avais 5-6 ans, mais j'ai déjà lu ça quelque part.
Oui, et malheureusement, la personne qui te parle s'en souvient plutôt bien.
Écoute, Luc, bon, d'abord, les gens de Québec vont pouvoir se consoler avec le retour de Patrick Roy qui a été confirmé aujourd'hui derrière le banc des remparts. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Québec, mais aussi pour l'ensemble de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une bonne nouvelle aussi même pour les Olympiques ici à Gatineau parce que Patrick Roy, c'est une vedette qui fait en sorte qu'on parle plus de cette Ligue-là.
Oui, et ça permet évidemment par voie de conséquence de vendre plus de tickets de billets. Et force est de reconnaître que depuis que Québécois a fait l'acquisition à Québec des remparts aux mains, en fait, c'est Tanguay qui avait ça, pas exclusivement, mais qui avait ça avant, on parle un petit peu moins des remparts. Il y a comme une espèce de magie là qui est partiellement disparue et je pense que ça va certainement contribuer à ramener beaucoup d'intérêt, non seulement à Québec, mais du côté évidemment de la Ligue aussi, puis par voie de conséquence à Gatineau, parce que partout où passe évidemment Patrick Roy, il ne laisse personne indifférent, puis ça fait partie aussi de sa personnalité, et les années où il a été là à la barre des remparts, le show était forcé, et de le constater, le show était de très très grande qualité, avec beaucoup d'émotions aussi, sur ce plan-là, ben, dans le domaine du hockey, puis spécialement au Québec, c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné.
Mais cela dit, Luc, ma dernière question, comment on va faire pour survivre à Québec avec TVA Sport du côté de Vidéotron sans équipe de la Ligue nationale de hockey et le centre Vidéotron? C'est bien beau le retour de Patrick Roy, mais ça reste une équipe junior. Combien de temps on va être capable de toffer, excuse-moi l'anglicisme?
Oui, ben il est certain que, bon, puis là aussi je te le dirai pas avec beaucoup de bonheur dans la voix, mais soyons réalistes. Je commence à penser qu'on a probablement manqué le train sur ce plan-là. Et on parle, dans le cas de Seattle, là, tu parlais de Seattle, on parle de quoi? 550 à 600 millions de dollars US. En mine de rien, on s'approche du milliard canadien. Et là, si on est juste raisonnable, 5 secondes, dans un marché comme Québec, ça n'a évidemment aucun bon sens. Et on est même rendu au point où si on est Québécois et si on est TVA, ben on se dit peut-être que dans les circonstances on va passer notre tour. Et c'est peut-être l'impression qu'on a eue d'ailleurs même du côté de Las Vegas la dernière fois, lors de la réunion lors de laquelle, tu te souviendras, on avait annoncé la concession de Vegas. Alors, est-ce que ce serait normal que l'équipe qui joue dans le plus petit marché paie le plus grand montant pour obtenir une équipe de la Ligue nationale? Je pense que poser la question, c'est ça.
Bien sûr que non. Puis on peut appliquer ça à Ottawa. Évidemment, si on perdait notre équipe, on n'aura jamais les moyens d'en racheter une.
Ce serait très malheureux, effectivement. D'autant plus que sur le strict plan de la passion du hockey, si c'est comme ça qu'on mesurait les choses, Louis-Philippe, mais malheureusement, en 95, j'ai compris que c'était peut-être pas la seule donnée, là. Et c'était en fait assurément pas la seule donnée. Mais si on mesurait ça juste à la passion, on serait en train de se raconter une autre histoire. Bien sûr. Malheureusement, on n'est pas simplement dans la passion, mais on est surtout et principalement dans les dollars. Et dans ce département-là, évidemment, c'est toujours un petit peu plus difficile pour les joueurs canadiens.
Oui, les dollars sont de plus en plus gros. On s'entend là-dessus. Merci, Luc. On s'en reparle bientôt.
C'est un plaisir, Louis-Philippe.
Salut.